Et salut tout le monde, bienvenue sur Le Trichot, le podcast 100% triathlon qui vous parle des dernières news, des dernières actualités dans le monde du triathlon. On se retrouve aujourd'hui avec une équipe un peu réduite par rapport à d'habitude, mais quand même avec les meilleurs. Les meilleurs sont là, voilà, on peut le dire. Avec Jeanne Leher de Luxembourg Triathlon. Bonjour Jeanne, comment ça va ?
Salut tout le monde, bah ça va. Comme je le disais à mes deux collègues, je suis un peu fatiguée parce que j'ai enchaîné. Parce que chez moi, il est 17h, mais sinon, ça va.
Chez toi, au Portugal, donc en préparation en ce moment.
C'est ça.
On a également Jérémy Quindeau, c'est un collègue de club d'ailleurs, des Sables Vendée Triathlon. Comment ça va, Jérémy ?
Salut à tous. Bah écoute, moi, ça va très bien. Moi aussi, je sors de l'entraînement comme Jeanne. Il n'y a pas qu'elle qui s'entraîne, mais moi, je suis en pleine forme. Hein. J'enchaîne bien là.
Allez, on va enchaîner tout de suite donc avec les up and down des semaines passées. Et puis, bon, on va commencer par toi, Jeanne. Les up and down de la semaine, c'est parti.
Alors moi le down c'est tout ce qui s'est passé autour de l'annonce des tenues officielles de l'équipe de France pour les Jeux Olympiques. Je pense que bon en soi les tenues qu'on aime ou qu'on n'aime pas personnellement moi il y a des trucs que j'aime pas dedans. Je trouve que c'est un peu un truc bizarre mais pas forcément moche. Mais par contre les commentaires ont été souvent racistes en fait. Pas pour la plupart, heureusement, mais il y a eu pas mal de commentaires racistes et je trouve qu'en 2024, qu'on en soit encore là, c'est assez affligeant. Et pour le up, c'est la performance de Morgan Pearson, donc l'Américain qui s'est qualifié au jeu en faisant top 8 à Paris, au test event, qui a fait quatrième aux championnats nationaux américains, du coup, de cross-country sur 10 km. Et du coup, bah, c'est déjà quatrième sur un championnat américain, quel qu'il soit, c'est déjà plutôt solide. Et du coup, il sera dans l'équipe, alors je sais pas s'il les fera, mais des championnats du monde de cross. Et du coup, on peut dire qu'il est très en forme parce qu'il a couru en un peu plus de 29 minutes. Je ne sais pas comment était le parcours de cross, si c'était un cross plus nord de la France ou sud de la France, mais quand même.
Eh bien, merci effectivement et pour ton down, ton up et down aussi concernant les tenues de l'équipe de France, je suis assez d'accord. Et puis, bah, pour avoir la chaîne du triathlon, beaucoup de commentaires qui n'ont pas leur place dans le milieu. Et voilà, moi, j'ai décidé de les laisser quand même. Ça permet de voir un petit peu les positions aussi et d'essayer de comprendre certains, mais bon, c'est peut-être les mêmes qui iront encourager des athlètes avec une couleur de peau différente, mais qui défendront quand même les trois couleurs. Donc, voilà, j'espère que les mentalités évolueront quand même. Et comme tu le dis, c'est dommage qu'on en soit encore là.
Ouais, bah moi je vais commencer par mon down qui était le up de Jeanne. Donc c'est la prouesse de Morgan Pearson qui a fait donc quatrième au championnat de cross-country élite.
Mais comment vous copiez ?
Aux USA.
C'est dingue, ça.
Ouais. Bah on est dans le même club. On est dans le même club. On se connaît depuis des années. Et malheureusement, on pense à la même chose, mais pas dans le même sens. Vu que moi c'est mon down, ça me fait un petit peu peur tout ça. Je me souviens du test event à Paris. L'été dernier où Morgan Pearson avait couru tout le long avec Dorian et vu qu'il avait sa qualif en poche pour faire en faisant dans les 8 premiers, il avait laissé un petit peu tout le monde se battre pour les médailles et les qualifs de chacun. Donc pour moi, s'il passe encore un cap à pied, il va être un concurrent très très sérieux pour le titre ou une médaille en tout cas. Donc ça c'est mon petit down côté français patriote. Et mon up de la semaine c'est le titre en cyclocross du cadet Soren Bruyère-Joumard. On parle souvent du cross country en course à pied et un peu plus rarement en cyclocross. Là c'est quand même un super résultat qu'il a fait puisque c'est un triathlète qui a fait troisième au championnat de France minime l'année dernière et donc là remporté pour sa première année cadet le titre de champion de France de cyclocross. C'est super en tout cas qu'on parle d'un triathlète dans le milieu du vélo pendant l'hiver.
Bah merci. Pour moi, les up and down, ça va être la mort. On a appris la mort de Philippe Gabel, l'Australien, qui est décédé pendant ses vacances au Japon. C'était, pour ceux qui le connaissent pas, l'un des pionniers en fait du triathlon en France. Il faisait partie de l'équipe de Poissy, avec notamment Rodolphe Retrain ou Christophe Croze. C'est des personnes qui étaient, par exemple, sur le triathlon des Mudros, qui fêtera ses 40 ans. Cette année, ou encore le triathlon de Nevers, pareil, qui fêtera ses 40 ans. Il était docteur de physiothérapie, il était dans le milieu du sport, il travaillait avec l'équipe d'Australie de triathlon. Et voilà, donc il est décédé. Et bah forcément, ça méritait un petit peu une mise en avant de ces gens-là, de ces pionniers qui couraient en slip à l'époque et qui pouvaient aller directement dans le parc à vélo, bah à vélo. Puis voilà. T'as déjà couru en slip, Jérémy ?
Pas du tout. Mais avant, je mettais un slip de triathlon sous ma trifonction.
De natation, tu veux dire ?
Non, un vrai slip avec. À l'époque, j'étais au club de Poissy et c'était un des slips qui allait avec les brassières où il y avait marqué Poissy sur les fesses. Et c'était mon petit maillot porte-bonheur que je mettais sous ma trifonction.
Tu voilà, mets voilà. plus du coup ? Tu rentres plus dedans ?
Que je ne mets plus. Voilà. Il est assez usé, on va dire.
Et puis mon up et c'est aussi un petit down de la semaine, mais c'est des athlètes qui prennent position, c'est Kylian Jornet et Zach Miller. Alors c'est là on est sur du trail, on est sur ils parlent de l'UTMB, mais qui est l'UTMB qui est marié un petit peu avec Ironman vu qu'ils ont un partenariat et qu'Ironman détient des parts de l'UTMB. Et donc les deux athlètes ont un petit peu adressé un mail en privé aux meilleurs athlètes professionnels du trail, du monde du trail, pour les inviter à éventuellement ne pas prendre le départ de l'UTMB, en se plaignant un petit peu de la tournure des choses, de comment l'UTMB se développait, que forcément il y avait un petit peu trop d'argent qui arrivait et que ça devenait un petit peu n'importe quoi et pas assez de redistribution des gains, qu'il y avait des problèmes avec des bénévoles, des annulations de courses. Et que au final, c'était tout le trail qui en pâtissait. Donc, ils invitaient un petit peu les athlètes à revoir un petit peu leur copie et de faire pression sur le label UTMB. Le mail devait rester privé, mais il y a un coach qui a été choqué dans l'autre sens, accusant les deux athlètes d'ingratitude, vu que c'est grâce un petit peu à l'UTMB que Kylian Jornet s'est fait connaître et Zach Miller a terminé des deuxièmes l'an passé. Donc voilà, ça a été publié. Vous retrouverez l'ensemble du contenu sur la page de la chaîne du triathlon. Moi, je trouve ça bien que des athlètes prennent position. Après, c'est peut-être la manière qui n'allait pas. Et dans le mail, effectivement, ils développent pas trop leurs propos, mais comme c'était fait pour rester privé, voilà. Voilà un petit peu pour les up and down de la semaine. Et puis, on va basculer tout de suite avec notre invité de la semaine, donc qui va représenter l'association Triathlon. Si vous ne la connaissez pas, restez avec nous. C'est une association qui a beaucoup de projets et qui a commencé à se faire connaître l'année dernière avec maintenant un circuit qui va arriver en 2024. Bonjour Nicolas, bienvenue sur Le Trichot. Comment ça va ?
Eh bien ça va, merci. Bonjour à tous et bonne année. On a encore le temps. Un grand succès franc et sincère pour le podcast Trichot.
Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter et puis présenter brièvement l'association déjà que tu représentes, Triathlon ?
Très bien, j'ai donc Nicolas Maublanc, j'ai 41 ans, je suis manager et développeur commercial pour une marque de sport nutrition, donc j'ai la chance de travailler avec beaucoup d'athlètes dans différents sports.
Tu peux citer le nom ici, il n'y a pas de problème.
Je peux citer le nom, ça s'appelle Endurance, Enduranz. Donc effectivement, c'est une marque qui récemment s'est introduite sur le marché, donc c'est peu connu, mais des triathlètes et des sports d'endurance, puisque ça s'appelle Endurance, commencent à être connus. Donc j'ai ce relationnel privilégié avec les athlètes. De par ce relationnel, je fais le lien directement avec l'association. J'ai pu rencontrer David Lacombe dans un accompagnement que j'ai fait auprès d'un triathlète que tout le monde connaît aujourd'hui, Sam Laidlaw, qui a marqué de son empreinte le triathlon mondial. J'ai eu la chance de partager la saison 2022 avec lui, puisque j'ai pu l'accompagner. Et donc, lors de ces échanges, on a pu se rendre compte de... Parce que moi, je ne connaissais pas particulièrement le triathlon. Je connaissais bien le tennis pour y avoir évolué plusieurs années, ainsi que le golf, donc plutôt des sports très professionnalisés. Et dans cette approche du triathlon, j'ai été à la fois séduit et j'ai été pris de passion, au même titre que David Lacombe, qui connaissait un petit peu mieux le triathlon depuis quelques années, avoir suivi lui-même plusieurs athlètes. Et on a pu pointer en fait tout ce qui aurait été nécessaire pour la professionnalisation de l'athlète, c'est-à-dire vivre de son sport. Je pense que c'est un sujet dont vous avez parlé beaucoup dans vos derniers podcasts, et je pense que c'est ce qui intéresse tout le monde. On parle beaucoup d'économie, donc nous, ça nous intéresse. Et on a voulu le faire à travers une association, donc ça veut dire à but non lucratif, dans le but d'assister en fait les athlètes dans cette recherche de professionnalisation. Alors, pour la petite histoire, du coup, c'est triathlon avec 3A. Donc, il y a évidemment trois piliers hein, que sont les athlètes, avec l'accompagnement qu'on peut faire à titre individuel pour le soutien administratif. Ça peut être aussi le sponsoring, ça peut être des difficultés qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de leur de certaines courses, comme on a eu le cas des fois d'un point de vue réglementaire. Donc on a eu toute cette approche vis-à-vis du soutien des athlètes. On a eu aussi du coup la volonté à être proche des épreuves, et donc on a repris l'épreuve de Royan, qui est une magnifique épreuve. On l'a repris pour la 13e édition l'année dernière. Ça a été une édition aussi formidable, et c'est une épreuve qui est assez rare en France par le fait aussi qu'elle est sur route fermée. Donc il y a un défi aussi technique et sportif. Et puis évidemment, dans les 3A, donc athlète, là, c'était adrénaline pour les épreuves. Et puis animation, c'est-à-dire organiser des training camps. Puisque la chance du triathlon, c'est quand même qu'on a encore la possibilité de partager des moments avec des athlètes de haut niveau. Le training camp, c'est vraiment la meilleure façon de le faire. Et cette année, on a eu la chance de pouvoir l'organiser dans un environnement privilégié à Monaco, puisque Julien, tu y étais pour la chaîne du triathlon. Et donc, tu as eu l'opportunité de passer des bons moments pendant une semaine avec nous tous. Ce qui compte, c'est que c'est toujours pareil, les triathlètes ont toujours beaucoup de choses à partager, parce que le triathlon, c'est trois sports, hein. C'est clair que c'est aussi à la fois pour beaucoup de gens un style de vie, et donc il y a globalement beaucoup de choses à partager pour la performance, et ça a été pour beaucoup une super expérience à la fois de pouvoir parler entre eux dans ce type de moment-là, et que ce soit pas forcément que les courses. Et puis en même temps, avec l'expérience qu'on a vue avec d'autres amateurs, ça nous a montré aussi le chemin vers la professionnalisation, et qui consiste aussi à créer une communauté triathlon plus grande, et ce type d'initiative en fait partie. Et pour conclure évidemment sur les courses, puisque c'est le sujet aussi d'aujourd'hui, c'est évidemment un circuit, le circuit français. Alors évidemment, c'est pour la petite précision, on va exiter le côté vraiment label pur comme ce qui peut exister aujourd'hui. Hein. La volonté, c'est d'abord de regrouper des courses avec un règlement sportif qui soit financièrement intéressant pour les athlètes. Alors il y a deux dimensions. Hein. Il y a d'abord la volonté d'avoir une dimension locale et nationale, puisqu'aujourd'hui on parle de grands labels et de grandes courses. Je pense que ça fait beaucoup parler la communauté, mais c'est quand même des choses qui sont réservées à quelques athlètes. Donc on veut aussi pouvoir parler à une communauté locale qui a soit pas les moyens, soit de pouvoir parler à, on va dire, se faire les dents. S'il faut une première division, il faut aussi une deuxième division dans le longue distance, hein, je précise. C'est quelque chose donc qui n'existait pas. Et donc dans cette stratégie-là, de pouvoir développer pour la professionnalisation un prize money qui soit suffisamment conséquent pour aller atteindre cet objectif. Voilà. Donc il y a quatre courses, hein, je vais le préciser quand même. Donc il y a Lacano qui est en mai, Aubernay qui est en début juin, Montauban qui est donc le 7 juillet, et une finale à Royan donc le 21 septembre.
Donc là sur ce nouveau circuit effectivement qui va voir le jour, est-ce que vous avez est-ce que vous êtes supporté par la FF3, est-ce que vous avez pu discuter avec eux, ou est-ce que vous faites ça complètement en parallèle en vous disant nous on lance notre truc, après à eux de se raccrocher?
Depuis le début, l'association a toujours voulu être partie prenante des discussions avec l'ensemble des instances et des institutions qui régissent le triathlon, qui sont importantes. Donc évidemment, il faut mentionner la Fédération française, mais aussi donc le PTO World Triathlon, puisque du coup ce sont des athlètes professionnels. Vis-à-vis de la Fédération française, on a repris contact dernièrement avec eux. Donc au mois d'octobre, on a eu un entretien très intéressant avec Monsieur Cédric Goss. Évidemment, c'était un grand plaisir d'être à la fois reçu, mais aussi entendu. Et évidemment, c'est la question du longue distance et l'attrait sportif notamment pour la France, il va être très important dans les années à venir, parce que pour l'instant il y a un focus sur le court distance. 2024 est une année olympique, mais on a la chance d'avoir été reçu positivement et d'avoir ensuite pu faire une réunion encore une fois avec plus les services techniques et la direction, en tout cas pour tendre la main à la fédération et pouvoir travailler avec eux main dans la main dans les années à venir. puisque je pense que tout le monde sait qu'en 2024, la fédération est très orientée vers les JO et c'est normal. Et disons que comme les discussions étaient fin 2023, les choses étaient plutôt lancées pour 2024. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on va régulièrement discuter et échanger avec eux pour avoir une vraie... en tout cas, qu'on puisse rentrer dans cette politique sportive aussi. Et puisque notre objectif, c'est quand même de donner de la valeur à un titre national sur le longue distance. Et on aimerait évidemment à terme à ce que ce circuit puisse désigner un champion de France. D'abord 2024, pour nous, un champion de ce circuit, hein, ce qu'on définirait comme un champion de France longue distance. Et ensuite, sur 2025, donner de la valeur en fait à ce titre à travers des partenariats qu'on ferait et un travail qu'on aurait main dans la main avec la Fédération française de triathlon.
Là, tu parlais uniquement de triathlètes professionnels. Premièrement, pourquoi qu'est-ce que tu entends par triathlète pro? Parce que il n'y a pas vraiment de définition en fait en France de ce statut et on voit par exemple sur des courses là que tu as nommées qu'il y a des départs par vague et c'est des triathlètes qu'on n'a pas forcément l'habitude de qualifier de professionnels et je pense que tu risques d'avoir d'ailleurs sur ton circuit des triathlètes performants amateurs qui basculeront sous l'appellation triathlète professionnel. Qu'est-ce que tu entends donc par là?
Effectivement, c'est une bonne question. Ce côté-là, en fait, n'est pas tout à fait clair. Donc, nous, on définit d'abord un professionnel, celui qui veut vivre de son métier. Donc, il y a une vraie démarche personnelle, en fait, dans son approche, et par exemple, de créer une société ou de créer des structures juridiques existantes et qui permettent de justifier le fait qu'il soit professionnel parce qu'il est engagé, en fait, là-dedans. Et c'est pas aussi qu'une question de niveau, comme tu l'as dit, mais ça peut pousser, en fait, à quelqu'un, en tout cas, à s'engager là-dedans si, évidemment, il y a un financier qui irait au bout. Donc, pour l'instant, dans notre circuit, on va accueillir 25 athlètes hommes, 25 athlètes femmes, sur la base de ces critères. C'est-à-dire, qu'ils puissent nous justifier qu'il est professionnel dans le fait que c'est du fait qu'il en vit, hein, qu'il a toute la structure nécessaire pour le faire. Et ensuite, évidemment, comme il y a des amateurs aussi qui ont des niveaux suffisants, ils vont se faire aussi sur la base de critères sportifs. Et pour l'instant, c'est à l'appréciation évidemment de l'association pour cette année 2024. Et évidemment que ce sont des sujets à définir dans l'avenir, avec la fédération. Évidemment, c'est un sujet sportif. Je vais préciser quand même que encore, par exemple, Royan, la course de Royan et la finale n'est pas en fait affiliée encore à l'FF3. Ça fait encore partie de ces courses-là. Étant moi-même dans ces discussions, la fédération regardera évidemment avec attention cette politique-là et on a des sujets de discussion à venir et on arrivera évidemment à se rejoindre.
Pourquoi limiter à 25 quand on a fait l'annonce du circuit sur la chaîne? T'as par exemple la gagnante du Frenchman qui elle est amateur mais qui fait pas forcément son métier. Je trouve que ça peut être limitatif, non? Pourquoi 25, tu vois, si vous avez 27 athlètes qui veulent venir en tant que pro, pourquoi elle est limitée, en fait?
Alors, on est obligé, au départ, en fait, de fixer un nombre, parce que c'est à peu près l'état des lieux qu'on s'est fait sur longue distance, en se disant que déjà, si on a la capacité à avoir 25 athlètes de très haut niveau, à un niveau professionnel, avec tout le système, en fait, de points qui va exister derrière pour le prize money, je pense que c'était une limite qu'on s'est fixée. Et pour tous ceux qui voudraient en plus revenir, on viendra à modifier en fait ce règlement. Maintenant, si évidemment sur les hommes on en a 35, les 10 seront acceptés sous différentes conditions. Nous, on est obligé dans un premier temps sur ces 25 là. Je vais donner un titre d'exemple. Celui qui gagne l'ensemble des courses s'il gagne les 4 courses. Puisque en fait les courses sont abondées en prize money, je reviendrai juste après là-dessus, ça lui ferait donc une rémunération de 13 000 euros. 13 000 euros, c'est un SMIC. Hein. Donc ça veut dire que celui qui gagne, clairement, en gros, il peut quand même prétendre à peut-être pas vivre, mais au moins c'est un minimum. Et il fallait bien mettre une première pierre en fait à ce système-là. Effectivement, ceux qui viennent après, comme nous, en fait, les 25, ce sont des engagements qu'on a à ce que, bah, évidemment, ils vont pas payer les droits d'entrée. S'il y en a plus que 25, vis-à-vis de l'ensemble des courses, ils pourront rentrer s'ils rentrent, évidemment, et s'ils remplissent les critères, mais ils devront payer, en fait, leur inscription. Le règlement, il est disponible sur le site... Pardon ?
Par exemple, si tu as quelqu'un qui s'inscrit, qui n'est pas inscrit sur votre liste et qui vient un petit peu en dernière minute, mais qui fait 3 courses, tu vois, qui paye ses courses, il fera quand même partie de votre classement ?
Alors, pour s'inscrire au circuit national longue distance, il faut minimum faire, comme tu l'as dit, les 3 courses, mais il faut surtout s'inscrire avant le 18 avril, parce que normalement, il faut un mois avant le début de la première épreuve. Donc, la première épreuve est le 4 mai. Donc, il faudra qu'il s'inscrive. Si la personne s'inscrit pour les 4 courses, il faudra qu'il s'inscrive un mois avant. Et donc, un mois avant, là, l'épreuve, en fait, d'Aubernay, qui est la deuxième étape. Voilà, donc il faudra quand même qu'il anticipe un minimum. Et si évidemment c'est une bonne nouvelle qu'on dépasse les 25 et que lui-même, remplit les critères, mais il est au-dessus de 25, il paiera en fait les autres courses. Maintenant, l'idée de la professionnalisation, c'est quand même de soutenir le triathlon français et les professionnels. Donc il faut nécessairement leur donner cet appât, en fait, l'appât du gain, c'est facile à dire, mais ces efforts en fait financiers qu'on a pu faire et mettre en place, notamment grâce à David Lacombe, parce que mon associé a été particulièrement généreux pour on va dire amorcer la pompe et mettre de l'argent clairement de notre poche pour faire vivre ce système là. Et après, dans ce règlement, concrètement, c'est extrêmement avantageux par rapport à quelque chose qui n'existait pas avant. Hein. Nous, on arrive avec beaucoup d'humilité et beaucoup de volonté d'apprendre, au même titre comme on est arrivé l'année dernière. Et on est surtout parti de la base de la volonté des athlètes. Hein. C'est un pilier qui est très fort. Donc nous, on suit ce qu'ils veulent. Évidemment, on suivra aussi ce que potentiellement voudrait la fédération parce que on poursuit cet objectif d'avoir un vrai titre national, en tout cas pour ce circuit, en plus de mettre en avant nos épreuves. Maintenant, je vais refaire un autre parallèle par rapport à la professionnalisation, c'est que quand vous êtes un athlète de haut niveau et qu'aujourd'hui vous avez le choix entre plein de circuits, mais que ces circuits imposent le fait que justement vous devez voyager beaucoup, forcément il faut calculer tous ces frais. En plus de l'impact écologique que ça peut avoir. Alors malgré tout, c'est quand même dans l'air du temps. Donc faire un circuit national comme ça, c'est réduire énormément ses coûts, puisque vous n'avez pas de licence pro ou de choses comme ça. Vous avez beaucoup moins de frais de déplacement. Et donc on a envie de cibler principalement des athlètes qui verraient dans ce circuit une possibilité de se lancer, de se faire les dents avec des athlètes de très haut niveau. Et puis prendre ses premiers points PTO, hein. Évidemment que, comme vous savez, le système de classement, on a un prize money qui est quand même conséquent, en tout cas qui est suffisant pour prétendre à un PTO bronze et donc marquer ses premiers points. Donc ça répond à cette logique d'apporter un circuit de deuxième division, hein, parce que moi je suis très partisan du Think Globally, Act Locally, c'est-à-dire que c'est évidemment extrêmement bon pour le sport d'avoir des investisseurs et des très grandes choses faites pour des très grands athlètes, mais c'est aussi bien de acter localement, ce qui peut des fois répondre à certaines problématiques qu'ils ont, parce que quand on n'a pas de politique locale, c'est compliqué d'engager des politiques globales. Donc je pense aussi que les discussions qu'on a eues avec le PTO World Triathlon sont aussi très très bien accueillies, parce que c'est des initiatives nationales qui pourront peut-être inspirer d'autres pays qui sont des nations fortes, hein, parce que évidemment notre volonté, comme vous le savez, la France a des résultats exceptionnels en longue distance, et que le longue distance avait besoin d'une initiative. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a écouté de la part des athlètes, et c'est ce qu'on a voulu faire.
Alors, avant de passer la parole à Jérémy pour une nouvelle question, juste pour rappeler pour ceux qui nous écoutent, donc tu as parlé du PTO bronze, donc c'est un système de classement de la part de PTO qui classe les épreuves qui peuvent attribuer des points, et les épreuves sont classées en fonction des prize money, en fonction de l'accueil, etc., et du niveau, blablabla, donc, et ça rentre en considération pour le calcul du classement, pour un certain pourcentage, le ranking de la course, voilà.
Ouais, moi je voulais rebondir. J'avais une petite question, donc pour préciser, moi je suis membre de l'asso et ambassadeur parce que j'estime que c'est une super initiative et je suis content de porter cette voix au sein de ma communauté. Donc, comme tu l'as dit, cette année, ça va être un circuit pro français long qui va être donc dédié aux athlètes français. Est-ce que tu penses qu'à l'avenir, vous allez ouvrir peut-être plus de places, monter, bah, comme tu as dit, peut-être à 35-40 dans les années suivantes si ça prend bien, et potentiellement l'ouvrir à des étrangers pour proposer aussi des courses plus denses et avec plus de niveau, pourquoi pas après Paris inciter une fille luxembourgeoise du nom de Jeanne Leher à venir sur les épreuves voilà du circuit.
Alors effectivement, merci pour ta question. Déjà, la question, c'est qu'on a besoin de soutenir le triathlon français. Donc, ce prize money-là, typiquement pour le circuit, il est volontairement dirigé vers les athlètes français. Ce qui n'empêche pas un athlète étranger de venir parce qu'il va offrir une densité particulière qui va justement, lui, l'intéresser par rapport à un système de points. Et il faut le distinguer du prize money qui existe, qui est déjà existant pour la course, parce que du coup, il y en a deux. Hein. Il y en a un pour la course elle-même et puis il y en a un en fin d'année. Nous, quand on parle du circuit national longue distance, on parle bien, à la fois, quand on fait les calculs, c'est le prize money de la course plus celui du classement français. On est obligé, d'un point de vue sportif, parce que ça existe aussi dans d'autres sports, que si on veut pouvoir décerner un titre français, il faut le décerner un français. Donc on est obligé de faire forcément la distinction des deux. Parce que si elle est luxembourgeoise, si elle veut être championne de France, en termes de nationalité, ça va être compliqué. Je serais ravi que tu te naturalises et que tu viennes aussi faire. Et t'as les deux nationalités. Bah, si t'as les deux, tu vois, ça répond au problème.
Pour le coup, j'ai failli poser la même question, mais je pensais pas à moi en l'occurrence. Je pensais parce que c'est quand tu parlais du fait de moins voyager, écologie, tout ça, et du coup, ça m'a fait tilter direct avec un ami belge que dans le groupe ici on connaît bien, c'est Noah Servet. Du coup, qui est belge, qui s'entraîne en France. En plus, belge, c'est assez francophone. Et pour des raisons, choix écologique, il veut plus prendre l'avion pour, de manière générale, et donc pas non plus pour aller sur des courses. Donc, il fait que des courses qu'il peut aller en train ou en voiture. Et donc, j'ai pensé à lui, et d'où la même question que Jérémy, voir si ça allait s'ouvrir aussi aux francophones, en tout cas, ou pas.
Bah, du coup, il peut courir.
Oui, mais après, il y a quand même les prix. De la course, donc en fait oui, c'est plus, après il y a un bonus pour les franco-français, quoi, mais ce qui est
en fait il va pouvoir prétendre au prize money de la course en elle-même. Mm-hmm. En revanche, il pourra pas prétendre au prize money du classement général qui est lui réservé aux athlètes français, en gros. Ouais.
C'est ça, mais de toute façon, je sais pas, enfin en tant qu'athlète, t'as toujours envie en fait de te battre avec les meilleurs, même d'un pays, tu vois. Donc je pense que l'idée, c'est que, tu vois, les dernières courses qu'on a eues, ne serait-ce qu'à Royan, je pense que la densité, elle valait largement plus qu'un championnat de France longue distance. Donc, honnêtement, même pour toi, à titre sportif, comme tu sais qu'aussi le classement, en tout cas l'attribution de points internationaux, en tout cas pour le classement PTO, il est aussi fait par rapport à la densité. Donc nous, ce qu'on va faire, évidemment, que au plus on va pouvoir abonder, au plus on va attirer en fait d'athlètes, à la fois français mais aussi internationaux sur les courses, hein, parce que au plus les personnes, peut-être les courses vont permettre de se remplir facilement. Et tu vois, clairement, si je prends le dernier exemple avec Lacano, ils ont augmenté le prize money. Donc le truc, c'est que à regrouper les courses et en fait à mutualiser certains coûts, parce que c'était notre idée de notre deuxième pilier. Si on regroupe plus de courses, forcément on peut mutualiser des coûts. Donc si on réduit des coûts d'un côté, on peut en tout cas, c'est pas une obligation, mais en tout cas on peut leur dire que ça vaudrait le coup qu'ils aussi ils le réinjectent sur justement sur un prize money, parce qu'ils vont attirer des athlètes le plus haut niveau. Il faut savoir que quand même, pour une communauté amateur, qui viennent faire leur triathlon, l'avantage du triathlon, c'est que quand même tu peux voir tes athlètes préférés nationaux, et donc tu peux forcément peut-être remplir ta course plus facilement et avoir cette expérience et ce mélange en fait entre athlètes de très haut niveau amateurs. C'est la ligne un peu c'est dans la lignée de ce que peuvent faire d'autres label plus important, c'est justement de mettre en avant cette expérience. Et nous, on veut le faire dans une dimension nationale.
Pourquoi ne pas avoir mis les triathlètes amateurs tout de suite sachant que c'est quand même une grosse attente. Et pour faire le parallèle, il existe un petit circuit qui s'appelait T2REA. Alors, j'ai pas regardé si ça existe toujours là, ce qu'ils font, pour être honnête. Mais c'est vrai que ça, il y avait un système de classement en fonction des courses, etc. Quand on a fait le post, nous, sur la chaîne du triathlon, on a eu vraiment beaucoup de retours aussi là-dessus. Pourquoi de pas avoir mis les amateurs, puisque c'est un vrai manque. Et on voit que les championnats de France, par exemple, le titre en France, bah, il y avait 200 participants, je crois, ou 300 la dernière année. Donc, c'était pas énorme. Donc, il y aurait peut-être eu un vrai engouement. Pourquoi pas l'avoir fait tout de suite, en fait?
Écoute, nous, on est arrivé avec David, on est arrivé avec beaucoup d'humilité hein, dans le triathlon. Donc, on a la vision globale de ce qu'on veut. Mais après, il y a des étapes. Donc, il faut commencer une étape après une autre. Dans nos piliers, il y a évidemment la communauté triathlon. Qui dit la communauté, ben dit effectivement ce système de classement. Alors pour citer T2REA, effectivement c'est une solution. Alors je sais pas si c'est public, on coupera ou pas, mais ça a été racheté par la Fédération française parce que c'est un bon système de classement qui te permettrait évidemment de que les gens puissent se situer. Mais du coup, il faut une politique sportive sur le longue distance. C'est la raison pour laquelle nous, on a engagé les discussions avec la Fédération française de façon à dire, nous, on a envie d'être partie prenante de cette énergie sur le longue distance avec un vrai board de triathlètes pro qui viendraient justement prodiguer leurs conseils et ce qu'ils auraient envie pour faire, du coup, dans un deuxième temps, un classement national pour les Edge Groupers. Alors, je vais refaire la redéfinition des 3A. Les 3A, c'était aussi All Athletes and Edge Groupers. Il y avait cette dimension internationale, c'est-à-dire tous les athlètes et les Edge Groupers. Hein?
Il y en a combien là? All Athletes et Edge Groupers?
C'est Edge Groupers. All Professional Athletes and Edge Groupers. Donc il n'y a que 3A.
Mais est-ce qu'il y a vraiment cette volonté après de l'ouvrir? Parce que c'est aux amateurs, c'est vrai que. Dès 2025, ou est-ce que vous laissez justement cette année en attente de voir comment ça prend et de voir, ou dès 2025 vous aurez ce championnat ouvert aux amateurs?
Bah c'est ça, parce que nous, comme on a commencé avec l'année dernière, des fois ça donne l'impression aux gens que ça fait des années, mais en réalité faut se remettre dans le contexte hein. Nous, ça fait un an et deux mois qu'on a créé l'association, donc tu vois, on est allé quand même à une vitesse, c'est un bon rythme, et on va continuer ce rythme-là. Et ce rythme, évidemment, se dirige vers aussi la communauté triathlon, et on sait très bien que dans plein de sports, c'est super important de pouvoir se situer d'un point de vue national bah, dans son groupe d'âge, hein. C'est comme une des forces aussi d'autres labels que de mettre en avant ces groupes d'âge, donc nous, c'est aussi un objectif, et évidemment sur 2025, et que bah, y en a deux. Déjà, un, est-ce que il y a peut-être plus de courses dans ce circuit, c'est la première chose, donc ça va intéresser évidemment plus les triathlètes pros, mais aussi les amateurs, parce que au plus on va avoir des courses dans plein d'endroits de France, au plus les gens pourront y participer pour justement se classer dans ces catégories d'âge, donc c'est un objectif. Mais voilà, c'est par beaucoup de, tu vois, il y a des étapes quand même à franchir, il y a des réussites à avoir, et puis aussi il y a des partenaires à emmener avec nous. Je rappelle quand même qu'on est donc une association, hein, on est à but non lucratif, nous on est bénévoles, on prend ce temps-là sur notre temps personnel pour construire tout ça. Alors on peut pas lutter contre d'autres organisations qui à coups de millions peuvent s'offrir beaucoup de compétences. Nous on met notre temps et justement nos compétences pour construire ça avec beaucoup de volonté, et c'est par là aussi qu'on se diffère. Mais aussi on avance grâce à nos athlètes pros, et puis grâce évidemment à une communauté amateur qui nous fera ses remontées cette année. Hein, chaque année et chaque épreuve va être un test pour nous, va être à chaque fois une opportunité de recueillir un maximum d'informations pour pouvoir construire ça sur le long terme.
Alors j'entends là tout ce que tu me dis. Moi derrière j'ai une petite question quand même. Tu nous parles effectivement d'association loi 1901, de mettre en place tout ça sur ton temps libre, etc. Mais en soi, qu'est-ce que toi, Nicolas, et puis David aussi, vu que vous investissez aussi dessus, j'imagine que vous attendez quand même un retour sur investissement sur ce qui va être fait au-delà, et que vous n'êtes pas non plus des philanthropes non plus. Donc qu'est-ce que vous avez à gagner? Qu'est-ce que triathlon a gagné à ça? C'est juste par pur plaisir, ou est-ce que, par exemple, pour vous, ça va vous aider à promouvoir votre course Royan ou d'autres choses? Ou Comment toi tu vois les choses, ou c'est juste vraiment du mécénat et du pur bénévolat, quoi?
Je pense que vous avez vu beaucoup d'exemples dans le triathlon avec des gens qui sont arrivés dans la notion d'investisseur et qui peuvent, dans un environnement qui est pas encore professionnalisé, c'est un peu difficile d'avoir une vision et une ambition très précise en fait là-dessus. Donc nous, on est des pragmatiques avec David. D'abord, on donne du temps parce qu'on a la passion de ça, et que si déjà on laisse une trace avec un règlement sportif, un groupe d'athlètes, ce genre de choses, déjà c'est pour nous, c'est beaucoup de satisfaction. Le mécénat, ça fait partie de, enfin on va dire, c'est ce qui a beaucoup existé en fait ces dernières années dans le triathlon longue distance. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de partenaires se sont investis, voilà, à perte, hein, clairement, pour soutenir en fait des athlètes. Et puis bah c'est une situation pour nous où on s'est dit, ben il faut comment dire, un élément intermédiaire qui est l'association en fait, pour potentiellement arriver à diriger des partenaires plus importants dans cette économie en fait du triathlon, et d'abord du triathlon national. Faut savoir que quand t'as une entreprise privée et que t'as d'autres grands groupes français qui veulent investir dans le triathlon, bah c'est pas forcément la structure juridique qui te permet de le faire, alors que l'association ça le permet. Donc déjà avec beaucoup d'humilité, on a cette porte d'entrée vers le triathlon longue distance. Donc évidemment partenaires, venez nombreux dans notre association, on est là pour ça. Donc évidemment ces fonds sont naturellement redirigés vers les athlètes, vers les épreuves, évidemment vers tout ça. Donc on n'a pas d'idée évidemment précise, et on n'a pas de volonté d'avoir un retour sur investissement, et de toute façon on sera, par rapport à ce qui existait, on sera de toute façon très satisfait de si tout ça se réalise. Et évidemment, on en reparlera dans 5 ans, mais ça restera de toute façon une association. Et comme beaucoup d'associations, après, pour nous, il faut acquérir des compétences. Hein. C'est pas à deux qu'on va gérer tout ça. Après, il faut faire les choses avec beaucoup d'honnêteté. On a la chance d'avoir intégrer Mathieu Blaise aussi dans notre bureau. On a d'autres personnes. On sait qu'il y a plein de profils de gens qui veulent donner du temps pour ça parce qu'ils aiment le triathlon. Donc on est hyper satisfait de faire du recrutement bénévolement dans cette association pour mener ces objectifs-là, avec des gens avec extrêmement de compétences qui connaissent extrêmement bien le milieu. Donc c'est top. Et après, de façon générale, hein, dans le triathlon, et vous le savez, et puis ça fait écho un peu à toutes les difficultés du triathlon. Un triathlon, c'est d'abord des bénévoles. La particularité du triathlon, c'est que, comme les parcours sont grands, etc., il te faut 300 bénévoles. Enfin, je veux dire, c'est des structures qui sont honnêtement encore très sur la base d'associations et bénévolat. C'est la réalité en fait de l'événementiel aujourd'hui dans le triathlon, ce qui diffère totalement du coup d'autres modèles, et ce qui des fois peut avoir beaucoup de critiques, et c'est normal. Mais pour autant, il faut trouver justement ce modèle en fait peut-être intermédiaire, et qui servirait en fait des intérêts nationaux. Parce que je pense qu'à la fin, pour on va dire pour 99% des gens et des triathlètes, l'idée quand même, parce que je pense que ça plaît à tout le monde, ça nous satisfait tous, que moi je viens du tennis, j'avais un classement, je savais au niveau français combien j'étais, et je crois que tout le monde a envie de se mesurer aux autres, et c'est l'aspect de la compétition avant tout, et c'est ça qu'on veut offrir, quoi. En plus d'aider les pros, évidemment, etc., à en vivre.
Bon, alors hormis Monsieur Jérémy Quindos qui est autour de la table, est-ce que tu peux nous donner quelques noms de triathlètes pros qui seront au départ de 3 courses cette année? Quelques-uns, pas tous, mais quelques-uns.
J'aimerais vous donner la liste complète. Pour l'instant, en termes d'inscrits, comme on a une limite de 25 qu'on vient de démarrer, on n'en a pas tant que ça, et je ne veux pas répondre pour eux. Mais effectivement, le profil de Paulin Philippe, parce que vous avez eu la chance de parler avec Laurent Chevchek précédemment. Donc Paulin, qui est un passionné de triathlon, parce que son père est associé avec Laurent, donc du club de Liévin. On a Maxence May. Enfin, ce genre de profil de néo-pro, c'est évidemment c'est vraiment fait pour eux. C'est fait pour eux parce que c'est des jeunes qui ont eu déjà des titres dans les groupes d'âge, et qui vont avoir cette possibilité justement de se faire les dents sur ce circuit, de gagner peut-être les premiers points PTO, et puis de pouvoir en vivre. Alors, je serais ravi de vous partager ensuite la liste définitive. Et puis, Jérémy, il veut réagir.
Ouais, mais je voulais dire qu'il y avait comme une belle diversité d'athlètes, pour citer que quelques noms. Donc là, il nous a présenté, on va dire, deux néo-pros. Maxence et Paulin, on a quand même des athlètes très très chevronnés, à l'image d'Arnaud Guillou ou Arthur Orso. On a des féminines comme Jeanne Collonge et Marion Legrand, et on a même un paratriathlète, Thibaut Rigaudeau. Voilà, ça fait un beau panel d'athlètes. Et si on me rajoute moi, qui vient du court de distance, et pourquoi pas de nouveaux ambassadeurs par la suite. Voilà, on a quand même un panel large de triathlètes français qui pourront apporter voilà des regards un petit peu différents pour améliorer, on va dire, ce circuit et faire évoluer aussi l'association.
C'est exactement ça. On a beaucoup de profils différents. On a quand même parlé de ces profils, donc du long, ceux qui viendraient comme des Chenzino Lobo, comme des Cédric Ludet, etc. Kasia Mirmoine. Tout ça, c'est des jeunes et qui ont besoin en fait de ce circuit-là. Évidemment, ils ont besoin de se confronter aux meilleurs mondiaux, mais au niveau national et pour des raisons financières, c'est évidemment beaucoup plus accessible. Et après, oui, dans l'asso, de toute façon, c'est ouvert après à des personnes qui peut-être potentiellement iront sur du long. Je pense du coup à Jérémy, mais aussi qui ont des profils, ont une voie à donner pour les aider, parce que c'est toujours compliqué. Quand les athlètes, bah, ils ont des questions et des choses comme ça, on a voulu créer vraiment ce canal et cette surface nécessaire à bah, ce qu'ils puissent échanger et dire, tiens, j'ai entendu ça, qu'est-ce que vous en pensez? C'est aussi une vraie opportunité en fait à échanger bah, sur des sujets sérieux et puis de faire avancer le triathlon en leur donnant une voix pour tous et puis du coup bah, un environnement pour pouvoir le faire et s'exprimer et du coup en vivre.
Ok, bah merci à toi Nicolas. Perso, moi je trouve que c'est un beau projet de toute façon que vous soutenez parce que bah voilà, il y avait un manque en France vis-à-vis de ça, et un titre de champion de France, même si vous le décernez en off, le champion de France triathlon, ce sera déjà une belle chose. Après, bah on verra qui rejoint, et je pense que votre succès il sera lié un petit peu aussi à ça, à la densité aussi. Et puis ouais, moi j'attends vraiment pour les amateurs surtout. Et je pense que pour vous, c'est aussi un fond, bah, on le voit avec Ironman, hein, de toute façon aussi, même pour remplir les courses, etc. Pas forcément besoin de ça, mais Royan, Gorillaman, Lacanau et Obernai, c'est des courses qui remplissent déjà bien. Mais c'est toujours bien, je trouve, et il y a un vrai manque. Et ouais, j'espère vraiment que la Fédé réfléchit bien à ça et observera bien, parce que pour moi, c'est important aussi que. Je trouve que ce serait dommage qu'ils ne prennent pas le wagon en marche. Après, il y a peut-être d'autres choses, et puis voilà.
Ben, merci pour tes encouragements. De
Merci.
toute façon, les courses, elles sont toutes ouvertes à tous les amateurs. Hein. Évidemment que tout le monde est le bienvenu sur ces épreuves et que ce circuit, et puis ben, c'est en montrant aussi l'engagement de tous et d'où ces gens qui viennent ben, qu'on pourra aussi ben, engager des discussions sérieuses avec la fédération. En tout cas, notre porte est ouverte et ce sera avec grand plaisir que de collaborer ensemble à ce circuit, à donner, on va dire, de la valeur à un titre national avec un circuit national, et ça aurait beaucoup de sens.
Eh ben, merci beaucoup Nicolas. Est-ce que tu souhaites rester avec nous pour le débat en bois? Tu vas voir, c'est du lourd. On a prévu du lourd là, comme débat. Est-ce que ça t'intéresse?
Oui, je reste. Ça m'intéresse.
Allez, tu restes avec nous. Alors, on bascule tout de suite au débat en bois. Allez, le débat en bois de cette semaine, eh bien, c'est faut-il autoriser le dopage chez les amateurs? Faute de moyens de lutte. Alors, j'adore ce titre, je le trouve formidable. Et en fait, ça fait suite à un article du Monde qui est paru jeudi dernier, qui remontait en 2017 sur l'UTMB, donc sur le format Ultra Trail, avec 412 amateurs qui avaient accepté d'être testés, test urinaire, anonymement. 49% des tests contenaient des traces de médicaments. Bon, ça, c'était légal. Et 16% des substances interdites. Donc, il y avait quand même 16% de ces 412 athlètes qui ont été testés, qui donc amateurs, donc qui n'avaient rien à gagner, qui se sont retrouvés avec des substances interdites. Dans les substances, le premier, c'était des anti-inflammatoires pour les médicaments, donc dans les 49%. Donc, est-ce que c'est du dopage? Est-ce que c'est pas du dopage? Quel est votre point de vue là-dessus? Bah, Honneur à toi, tiens, Nicolas.
Bah effectivement, j'avais vu cette étude-là. C'est effectivement très répandu. Alors, c'est des fois volontaire, pas volontaire, parce que les gens, déjà, en matière de dopage, ça veut dire qu'en gros, il y a des règles et que les gens, ils dépassent les règles, c'est souvent sans le savoir. Donc, évidemment, pour les gens, prendre des anti-inflammatoires, les gens, quotidiennement, presque se dopent. Je pense qu'il y a un vrai risque sanitaire et je pense qu'il y a... Comment dire? Il faut peut-être vraiment insister sur... justement ces règles-là et sur ce qui est possible de faire ou pas. Alors je vais refaire une parenthèse sur l'association, mais c'est aussi prodiguer le bon discours et les bonnes règles. Mais je pense que tu parlais donc de légaliser. Non, mais après c'est comme tout, c'est à partir du moment où tu fais des sondages, les gens, il y en a une partie qui va dire ouais, ce serait super cool pour des raisons de tester tout, mais non, il y a un vrai danger pour la santé, donc c'est hors de question de je veux dire, pour moi il y a même pas de débat.
Ouais, mais vu qu'il y a pas de contrôle. Tu vas où je veux revenir, il n'y a pas de contrôle. On n'a pas les moyens de lutter.
Non, en fait.
C'est-à-dire que moi, dans toutes les courses amateurs que j'ai pu faire, j'ai pissé 0 fois dans le bocal. Quel intérêt, donc, tu vois, de mettre des substances, de dire aux gens que c'est interdit, puisque de toute façon, tu as 16% qui le fait.
Des règles, tu en as toujours, que ce soit dans la vie, en fait, ne serait-ce que, je sais pas, conduire à 90 maximum sur une route à 90. Tu en as plein qui vont être plus rapides que ça. Plus de 16% d'ailleurs, et ils vont jamais se faire contrôler, ils vont jamais avoir une amende, jamais si, mais c'est pas pour autant que c'est bien. Et comme, alors déjà, t'as le truc de la santé, donc à partir de là, les gens, s'ils veulent mettre leur santé à risque, j'ai envie de dire, c'est leur problème. Mais de là, enfin, moi, rien que la question de légaliser ou dire ok au dopage, cette question.
Non mais c'est n'importe quoi cette question. Genre, est-ce qu'il faut juste rappeler que
c'est
une forme de triche. Donc c'est comme si tu disais, est-ce qu'on est vraiment obligé de faire le parcours vélo en entier, quoi, sur son triathlon? Ou est-ce qu'on est vraiment obligé d'aller jusqu'à la bouée parce que ça fait loin, quoi? Mais est-ce qu'on peut pas faire demi-tour avant? Enfin, c'est, on est sur une triche, quoi, sur une triche qui est un peu.
Une mobylette plutôt que mon vélo.
Ouais, mais ça c'est facile de lutter contre. Tu vois, maintenant on a les temps intermédiaires, tu peux savoir que t'as quelqu'un qui a coupé. Alors que là, en fait, t'as quand même. Alors bon, tout ce qui est anti-inflammatoire et tout, rappelons que c'est légalisé. Il y avait donc dans l'étude, c'était 22% qui avait des anti-inflammatoires. On avait des opioïdes à 7%, le cannabis à 2%. Bon, ça, je pense qu'ils étaient pas au courant. C'était pas forcément interdit, un petit joint avant la course. Rappelons que c'est interdit, hein, c'est illégal. Ouais, c'est ça. 1% de stimulant.
Ou pendant, parc à transition, quoi.
De quoi?
Ou pendant, sinon. Bah, un petit joint dans le parc à transition, ouais, quoi,
ouais,
quand même.
C'est exactement ça, ouais.
Voilà, c'est ça. Ou pendant.
Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est n'importe quoi. On met pas de moyens, en fait, en France. Il n'y a pas de... combien de fois, et vous là chez les élites, combien de fois par exemple en Grand Prix vous avez pissé dans le bocal?
Moi, zéro en Grand Prix, voilà. Peut-être parce que je suis moins fort que Jeanne Luer, si on compare mes femmes, mais j'ai quand même fait certaines bonnes places et on m'a pas contrôlé.
T'as fait 5e cette année, pour le coup, je pense que ça a déjà été jusqu'à des top 5. Parce que sur les Grands Prix, souvent ils prennent ou les 3 premiers ou top 5, ou 1, 3, 5, ou des délires comme ça, et parfois. Quelqu'un au hasard.
Je crois qu'ils prennent les 3 premiers et ensuite ils prennent 2 ou 3 aléatoires, du genre le 5, le 7 et le 9. Voilà. Ouais. Mais.
Et peut-être même des fois juste aléatoire sur la start.
Ouais, c'est ça.
Et toi, d'ailleurs, à Royan, tiens, c'est une question pour triathlon, d'ailleurs, sur ton circuit. Est-ce que déjà à Royan, vous avez un test antidopage? C'est pas un reproche, hein, pas du tout. Hein. Mais c'est juste déjà pour informer tout le monde. Et est-ce que sur ton circuit, par exemple, vous allez intégrer un test antidopage, peut-être pas cette année pour des raisons de budget, mais est-ce que c'est prévu pour vous d'avoir un antidopage mis en place, parce que justement maintenant vous intégrez du financier, et là je parle des élites, hein, pas forcément.
Bah, c'est exactement ça, je pense qu'il y a une notion budgétaire qui est importante. Au plus t'as de moyens, au plus tu peux mettre ton argent sur des choses essentielles par rapport à l'éthique du sport. Donc pour l'instant c'est un vrai sujet de travail, parce qu'il faut que tout le monde puisse adhérer, donc l'ensemble des courses, parce que chaque course est quand même responsable de son règlement aussi. Donc c'est un sujet évidemment qui est travaillé, qui est discuté et qui sera en place on va dire concrète et plus professionnelle dans les années à venir. Au même titre que c'est pas irréprochable dans plein de milieux et dans plein de courses et dans plein de sports.
Pour les quelques amateurs qui sont testés, est-ce qu'il faudrait pas plutôt mettre ce budget-là sur plus d'élite par exemple?
Il faut le mettre l'argent partout. Il n'y a pas de partout. C'est pour ça que je fais un appel aux dons, s'il vous plaît.
Ça, mais... Si vous aviez la caméra, Jeanne, elle était en train de souffler. Qu'est-ce qu'il raconte encore?
Non, mais c'était plus en mode, de toute façon, on ne pourra jamais faire tout parfaitement. Ça serait bien de pouvoir contrôler tout le monde. Non, mais ça, c'est
exactement ça.
Et après, évidemment, la priorité, à mon sens, la priorité, ça reste les élites, puisqu'on le dit, à l'argent et compagnie. Après, on se dit, mais pourquoi les age groups, ils se dopent, ils n'ont pas d'argent à gagner. Mais oui, mais tu as celui qui va aller prendre son billet pour Kona ou Nice, celui qui va prendre son billet pour que sais-je, celui qui va pouvoir dire en rentrant le week-end.
C'est l'ego, hein.
Oui, j'allais dire, tu vas rentrer et dire, ah, moi, j'ai gagné la course à saucisson. Bah,
pour la ouais, machine à bien, café. Mais ouais, c'est pour la machine à café, quoi.
Et après, ils savent, enfin, ils savent. Est-ce que ce soit conscient ou inconscient, ils se doutent qu'il y a moins de tests.
Je ne souhaitais pas cibler spécialement la FF3 hein, et les Grands Prix. On pourrait parler des Coupes d'Europe aussi, par exemple. Tous les deux, vu que vous avez fait des Coupes d'Europe, Coupes du Monde, combien de fois vous avez été testé sur ces Coupes d'Europe et Coupes du Monde?
Bah, pour le coup, Carterra, où j'ai fait plusieurs podiums, j'étais à chaque fois testé.
Alors, et... hors podium?
Ouais, après, en faisant podium. Je ne sais pas si j'ai été... Bah, sur WTC, j'ai déjà été testé avant les courses, deux fois, mais que depuis un an et demi. Et une ou deux fois, mais quand j'avais fait des bons résultats, pas forcément... Bah, pas podium, vu que j'en ai jamais fait. mais quand même, des
résultats. Et toi, Jérémy? Place.
Non, moi, j'ai quand même été contrôlé plusieurs fois dans ma carrière, je dirais une dizaine. Voilà, moi, j'ai quand même pas le palmarès de Jeanne à l'international, mais je me suis fait déjà contrôler sur des triathlons régionaux, sur des championnats de France élite de triathlon. Et sinon, le plus souvent, c'est sur la Ligue espagnole. Donc, moi, je cours aussi en Espagne, et du coup, vu que je fais des meilleurs résultats là-bas qu'en France, puisque le niveau est moins costaud, mais du coup je me fais toujours contrôler là-bas et c'est très bien. Mais je voulais, pour revenir sur le Grand Prix, moi je trouve ça un peu dommage de, par exemple, de contrôler 1, 2, 3, sachant que bah c'est Dorian, Pierre, Aiden Wild, Alexis. Je pense que ces gars-là, ils sont déjà très très contrôlés toute l'année, ils ont un suivi, un passeport biologique sûrement. Il ferait mieux de contrôler voilà des seconds couteaux. Comme moi, comme d'autres gars qui font des belles places et qui sont pas assez contrôlés. Moi, j'ai rien à cacher, hein, y a pas de souci, je peux faire des contrôles. Et je pense que mes adversaires aussi, ça donnera un peu plus de voilà de transparence et de confiance sur voilà sur la globalité du haut niveau et pas que sur les stars où voilà les stars elles sont assez contrôlées. Si elles tombent pas, c'est qu'elles sont clean. Et puis voilà. Enfin, moi, je pars de ce principe-là.
Alors, je sais pas si c'est si facile, mais oui, la théorie, oui.
Est-ce que toi, tu vois une différence, Jeanne, depuis là, tu as vraiment eu une grosse saison l'année dernière. Est-ce que tu as vu une différence avec les années d'avant au niveau des contrôles?
Bah déjà, je suis passée sur le système Adams. Donc maintenant, il faut que je me coche tous les jours quelque part pour 60 minutes. Donc j'ai eu quelques contrôles inopinés à la maison. Et après, sinon, sur les courses, franchement, je pense qu'en WTCS, en tout cas... Je pense que chaque course, il y a un contrôle, pas forcément, pas comme j'ai dit, moi, à Yokohama, je me suis fait contrôler avant la course, deux jours avant, du coup, le jour du briefing. Pareil à Abu Dhabi en 2022. Et après, de temps en temps, après les courses. Donc, je pense qu'ils font un peu, je pense qu'ils font le taf. Et moi, avec le Luxembourg, pour le coup, mes contrôles inopinés, ils ont été demandés par le Luxembourg. Ça a été souvent après des bonnes courses. Quoique la dernière fois c'était après une course aussi, cela dit, mais c'était pendant le début de ma off-season. Mais pour le coup, je pense que ça soit l'ALAD, du coup, donc l'agence antidopage luxembourgeoise, et World Triathlon, ils font pas mal le taf. Après, c'est sûr que quand j'étais encore française, alors j'ai été contrôlée sur des courses juste après résultat, mais ils m'ont jamais mis dans le truc Adams, et ça avait... Je sais que des filles de mon groupe, quand j'ai dit ah bah maintenant faut que je mette les 60 minutes tous les jours, elles étaient surprises. Elles font mais seulement maintenant, genre t'as jamais été alors que tu fais des résultats depuis que t'es junior, quoi. Et ça c'est peut-être, alors je sais pas ce qu'il en est pour toute l'équipe de France élargie, on va dire, mais c'est vrai qu'il y en a plus qui devraient peut-être être dans le système qui y sont pas encore, que ce soit parce que la France, enfin la Fédé ne donne juste pas les noms un peu par flemme plus que qu'autre chose, mais.
Donc pour expliquer à ceux qui nous écoutent, donc Adams c'est un système conçu par l'agence antidopage qui permet en fait aux sportifs qui sont divisés en deux groupes, les groupes cibles et les groupes contrôle, de renseigner en fait leurs infos de localisation et de dire où ils sont, à quel moment et ce qu'ils font exactement pour pouvoir être contrôlés.
Ce qu'ils font exactement.
Voilà. Ouais, quasiment. Bah si, tu dois mettre, non? Tu dois mettre
ouais,
à tel
fait,
moment, t'es là,
bah, où tu t'entraînes. Après, nous, vu que c'est course à pied et vélo, c'est pas comme, je sais pas, un nageur qui est tous les jours de telle heure dans la même piscine ou un
footballeur. Ouais, mais tu vas mettre vélo telle heure à telle heure sur ton
oui,
appli.
Mais bon, enfin, après, je vais leur donner maintenant GPS en avance.
Ouais, mais bah, tu leur donnes un point de départ, point d'arrivée, non?
Bah après, en fait, du moment que tu... C'est où tu mets jamais le même endroit. Genre, je m'entraîne, mais jamais au même endroit, difficile de vous dire. Je mets la piscine de temps en temps, et sinon, je mets mon créneau d'une heure et je mets quelques courses, les trucs que je suis sûre de faire, quoi.
Mais... Bah, on vous mettra un screen de ce process Adams, de cette appli Adams sur la chaîne du triathlon, si vous voulez, et puis Trims, si jamais Alexandre nous écoute. En attendant, là, ça parlait des amateurs, et est-ce que pour vous, tiens, une petite dernière, est-ce que pour vous, prendre des anti-inflammatoires avant une course, dans le but d'avoir moins de douleur, c'est du dopage?
Bah oui, si c'est dans le but d'avoir moins de douleur, c'est de la triche, du coup.
C'est légal.
Et si t'as des douleurs à cause de ton entraînement de la veille, ça reste de la triche.
Ah ouais, mais c'est légal.
Et c'est pas moral.
Après, c'est légal, mais c'est dangereux.
C'est légal, pas moral.
On est d'accord.
C'est hyper dangereux.
Merci Nicolas, merci à vous tous. On va enchaîner par un tout petit quiz pour finir sur le trichot. Allez, le quiz du trichot, c'est tout de suite. C'est question rapidité.
Oh, je me redresse un peu alors.
Oula, Jeanne Leher se remet en position. Attention, qui a été championne de France de courte distance de triathlon 2023?
Candice Deniso. Allez hop, ciao, bye.
Moi j'ai levé la main comme une guiche, mais j'allais me tromper.
Oh, la victoire pour
ma tête. Ah, moi j'ai buzzé, tu vois.
Parce qu'il me semblait l'avoir dit, mais je crois que c'est arrivé après, vous ne l'aviez pas entendu en fait. Bon, effectivement, il y a un décalage. Je valide.
Allez, question rapidité encore. Quel triathlon n'aura pas lieu en 2024?
Garmin Paris.
J'ai même pas eu le temps de finir la question, donc c'était oui, effectivement, c'était le Garmin Triathlon de Paris organisé par ASO qui n'aura pas le droit, qui ne pourra pas en fait être organisé en raison des contraintes de calendrier d'organisation avec les Jeux Olympiques. ASO étant engagé aussi sur l'organisation des JO. Une épreuve avec drafting qui se passait à Paris, qui est annulée. Quelle célébrité commentera les Jeux Olympiques sur la chaîne NBC?
Snoop Dogg.
Ouais, ben voilà la réponse de Nicolas. Eh oui, les Jeux Olympiques sont commentés par Snoop Doggy Dogg sur la chaîne NBC.
Mais si vous avez vu les derniers JO, c'était incroyable.
Ah mais moi j'ai adoré.
Avec Kevin Hart, il était avec Kevin Hart et c'était que des bangers, c'était incroyable.
Ah non, mais
c'était que des punchlines. En termes d'audience, c'était incroyable. Entertainment, c'était à 100%.
Il fait une partie sur le triathlon. Elle est monstrueuse. Ouais. Parce qu'il connaît rien, en fait.
C'est ça qui est bien. Comme quoi, c'est incroyable. C'est pas parce que tu viens pas du triathlon que tu peux pas commenter, et je trouve que c'est fou. Des fois, avec un regard extérieur, c'était vraiment génial. Et c'est ça, c'est le côté divertissement. Il faut que ça soit divertissant. Et pour le coup, ils étaient vraiment à fond dedans, et c'était top.
Est-ce qu'ils ont fait un contrôle antidopage et ils lui ont trouvé des substances un petit peu limite à Snoop Dogg?
Il avait un classement à part. Hein. Il avait un classement à part.
À Paris, il va falloir qu'il fasse attention. Hein. Il faut lui dire que c'est pas légalisé, contrairement à la Californie. C'est pas la même, quoi. Allez, une petite dernière pour la route et on part sur les. On va remonter le temps. On remonte il y a 10 ans sur les championnats de France de triathlon.
Non, mais il y a 10 ans, attends, 10 ans.
Triathlon jeune, en 2014, quelle triathlète française a obtenu le titre de championne de France junior de triathlon qui se déroulait à Châteauroux 2014.
En quelle année?
En 2014.
Jeanne Leher, non?
Non. 2015.
Ça aurait été fou qu'elle puisse parler.
Ben, c'est... Attends, 2014.
Cassandre Beaugrand?
Moi, j'ai pas fait de podium.
Alors, Cassandre Beaugrand a été titrée chez les
cadettes.
Mini.
C'est Audrey?
Chez les cadettes, pardon.
Audrey? Merde.
Audrey qui? Et Audrey Merle, effectivement, qui a été titrée en 2014 chez les juniors. Donc, je ne voulais pas prendre ton année, Jeanne. Et puis, ce sera pour le test, ce sera pour le quiz 2025. C'est quand on attaquera le trichot pour les 10 ans, pour fêter les 10 ans. Et ça fait combien, là? On en est à quoi au score?
Pour moi,
pour Jeanne. Et bien, la victoire pour Jeanne sur ce nouvel
épisode. On l'a laissé gagner.
Trichot. Merci en tout cas à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Si vous aimez le trichot, eh bien vous pouvez nous le montrer en nous offrant un café via l'application Buy Me a Coffee. Vous pouvez vous abonner sur les différents réseaux de la chaîne du triathlon. de Trims, de Jérémy, de Jeanne, de tout ce que vous voulez. Et puis, bien sûr, les réseaux du Trichot. À suivre donc Triathlon et leurs actualités avec le lancement du circuit. On suivra ça de très près. Bonne soirée à tous. Merci Nicolas, merci Jeanne et merci Jérémy. À la semaine prochaine ou à dans 2 semaines.
Merci à tous. Bonne soirée.
Salut. Ciao.